Alors, salut les smarts, salut peuple de catch-up, bienvenue dans votre podcast qui respire, qui suinte, qui dégouline, qui transpire le catch par tous les pores de la peau et du slip. Chaque semaine, nous passons au crible des chroniqueurs de la team catch-up, tous les shows de la WWE. Aujourd'hui, bienvenue dans le monde merveilleux du show bleu. Nous sommes à SmackDown, nous sommes au 1135e SmackDown à Tampa, Florida, USA, dans le WWE Thunderdome. Au commentaire, Michael Cole, Pat McAfee. Vous m'avez peut-être identifié. Je suis votre dinosaure masqué, que dis-je? Je suis votre Luchasaurus des podcatchs. Je suis le Tonton Chris ou Tonton Catch-up pour les intimes. Et pour m'accompagner, pour encenser, pour décortiquer ou pour mettre en PLS ce SmackDown du 21 mai 2021. Eh bien, les amis, peuple de catch-up, vous aimez les triples frites, vous allez être servis une triple menace de chroniqueurs. J'accueille tout de suite. Comment vais-je l'appeler? Je ne sais pas comment je vais l'appeler. Je vais l'appeler le conceptuel Raphaël. Yeah! Salut Raphaël!
Le conceptuel Raphaël. Bon, ouais. Bah, écoute, oui, il fallait pas t'embêter tant que ça. Hein. Tu m'as appelé Raphaël.
Yeah, à The Fiend, à un nouveau concept qui vient de sortir, tout ça, un truc un peu fresh.
C'est vrai que je nous ai invités tous ensemble à s'asseoir autour d'une table puisque c'est le déconfinement et à raconter un peu quelques histoires. Et pour commencer cette nouvelle capsule, ce nouveau format, on a commencé par plutôt des histoires qui font peur, ouais, des histoires de films d'horreur. Mais et je suis ravi car dans ce SmackDown, on a eu aussi des petites choses qui est un petit peu dans le fantastique, héroïque, tout ça, donc ça m'a bien plu. Et puis bah, bonsoir tonton, et bonsoir au deuxième invité que je te laisse présenter.
Tout à fait, notre Magic, notre Coyote, notre Echo Zygote, qui nous rejoint dans ce SmackDown. Salut Zygote.
Salut tonton, salut Raph, comment allez-vous?
Bien et toi?
Bon, plutôt pas mal, on a fait une nocturne avec Raph, Tonton et IRM la nuit passée. Est-ce que nous allons faire la même chose aujourd'hui?
Ouais. Alors les triples frites, c'est toujours dangereux, peuple de catch-up. Effectivement, on peut partir sur l'heure et demie des fois quand on s'emporte un peu. Mais on va voir, est-ce qu'on va être bavard? Est-ce que ce SmackDown vaut la peine d'être bavard? On va le savoir tout de suite. Je vous propose qu'on attaque, on rentre dans le dur. C'est parti, on se retrouve d'entrée avec la générale manageuse, Sonia Deville, qui est sur le ring et qui va nous annoncer la bonne nouvelle de la semaine, la bonne nouvelle du mois, la bonne nouvelle en pleine période de catch-up anniversary que demande le peuple. Eh bien, écoutez, Sonia Deville nous annonce tout simplement le retour des fans à partir du 16 juillet à la WWE. Ce soir, elle est seule pour gérer le show, car Adam Pearce est déjà en train de préparer la prochaine tournée. Alors là, tout de suite, messieurs, je me retourne vers vous. Je vais commencer par le plus âgé, je vais commencer par le Magic Zygote, le retour du public, mon Zygote.
Bah, c'est carrément une très bonne nouvelle. Que demande le peuple depuis plus d'un an maintenant? On a eu un petit plaisir là, de WrestleMania. C'est ce qu'on attend. Après, est-ce qu'il y aura du public au total? Est-ce que c'est dû à 50% ou autre? Moi, je n'ai pas les infos. Est-ce que Tonton ou Raph, avez-vous les infos pour ça?
Oh, Raphaël, hell yeah, non?
Non, moi, je n'ai pas d'infos sur les jauges ou sur les réservations ou tout ça. Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que c'est fait effectivement une très bonne nouvelle. Une nouvelle qui arrive juste après qu'on nous avait annoncé Hell in a Cell casé avant Money in the Bank. Donc maintenant, on comprend mieux pourquoi, effectivement, puisqu'en fait, le premier show avec du public sera un SmackDown, mais deux jours après, ce sera déjà le pay-per-view à la mallette. Petite surprise pour ma part sur la destination, pardon, plutôt, parce que c'est vrai qu'on aurait pu se demander premier show avec du public, mais où, quand, comment, dans quel antre du catch on allait pouvoir le faire? Bon, on part au Texas, c'est pas tout à fait la région que je préfère, c'est pas forcément la région où les fans sont les plus agréables, mais bon, voilà, pourquoi pas, ça aurait pu être à Stamford, à Chicago ou je ne sais où, ça aurait pu être en Floride d'ailleurs pour les fans de Floride, mais voilà, c'est le Texas, et ben, ça sera le Texas, ça ira quand même.
Bon, écoutez, moi je suis ravi, je vais prendre mon mal en patience, 2 mois à patienter avant le retour des arènes avec du public. Alors la jauge, je ne pourrais pas beaucoup pour l'instant, on verra ça au fur et à mesure des informations. Il va y avoir encore du temps, il va y avoir encore des infos Alors, on va continuer avec Sonia Deville sur le ring qui va nous présenter tous les champions de SmackDown un par un. Dominique, Rey Mysterio, La Familia, Natalia et Tamina. Apollo Crews qui est accompagné de son commandant Aziz, qui se permet d'ailleurs de jeter le déshonneur sur l'officiel en l'obligeant à défendre son titre. Et Bianca Belair, et bien sûr Roman Reigns, représenté par Paul Heyman. Alors là, notre avocat favori, que le terme champion est un bien grand mot pour ces personnes présentes sous le titan tronc là. En vérité, je vous le dis, ils ne sont que de simples détenteurs de titres. Ils sont tout palo, tout fade à côté du véritable champion qui est Roman Reigns. Et voilà, qui est la raison de la réussite de la WWE actuellement, le top guy. Donc Roman Reigns, il ne viendra pas à la parade pour se mélanger avec les autres. Il viendra quand il voudra. Alors là, écoutez, je ne peux m'empêcher de faire un petit voyage dans la langue de Shakespeare, en l'occurrence dans la VO, parce que cette promo de Paul Heyman à propos des champions qui étaient sous le titan tronc, c'était quand même quelque chose. Et en anglais, ça donne un... These people on stage are title holders. Roman Reigns isn't a title holder. He's a champion. I fucking love Paul Heyman.
J'avais pas noté qu'il avait dit ça à la fin.
Ah, quand il est comme ça, et le fait qu'il arrive derrière le champion, un peu en mode boxeur, là, avec le haut de survêtement pour Roman Reigns et la ceinture derrière sa tête, avec le Heyman qui parade. Voilà, c'était le moment. Au moment de clôturer la séquence, avant de vous passer la parole, il y a Bayley qui va venir interrompre Sonia et qui va taper un scandale parce qu'elle n'est pas invitée, alors que c'est elle qui porte le show depuis des mois et des mois et des mois. Elle va se moquer d'à peu près tout le monde en exigeant de Bianca Belair qu'on lui retire le titre, rien que ça, parce qu'elle a triché à ce moment. Bianca, elle veut intervenir, mais elle se fait attaquer par Nia Jax et Shayna Baszler. Natalia et Tamina viennent à la bagarre! Bagarre générale. Et ça va nous emmener sur un trios match, mais on en parlera après. Messieurs, plein d'infos. Raphaël, il s'en est passé des choses.
Ouais, moi j'ai trouvé ça vachement bien, cette idée de de temps en temps, parce que la WWE, c'est une course permanente, c'est formidable, le catch, c'est le mythe de Sisyphe presque, c'est la Grèce antique, c'est qu'en fait, dès que t'es champion, tu dois défendre ton titre, et jusqu'à ce que tu sois plus champion, donc en fait, c'est d'ailleurs bien représenté par le titre 24-7 de R-Truth, c'est quand est-ce que tu savoures en fait. Et là, j'ai trouvé ça vachement bien de faire une petite pause, et puis qu'on regarde tous ces champions, en plus c'est vrai que on est dans un alignement un peu particulier où il y a des champions vraiment identifiés. Voilà, il y a les Brothers and Son avec les Mysterio. Il y a Tamina qui est championne pour la première fois de sa carrière à la WWE depuis X temps. Apollo Crews qui a quand même une personnalité, une gimmick qui est vraiment assez hors du commun. Donc j'ai trouvé ça vachement bien. Et je suis pas peu fier de moi parce que sur le Discord de Catch Up, ça fait plusieurs fois que des personnes chagrinent un petit peu du Paul Heyman silencieux. Et je disais, à mon avis, c'est ça qui est encore plus fort, c'est qu'il dit rien. Il est derrière Roman Reigns, il fait les gros yeux, il est tout écarquillé, il fait le mielleux, il fait un petit peu le de funeste, là, à se frotter les mains. Et puis un jour, il va venir, il va claquer une grosse promo. Et là, il a fait ça, il est venu, il a claqué une très bonne promo. J'ai trouvé ça hyper bien trouvé, parce que c'est vrai que c'est pile après, le genre de...
Après le ding-ding-ding de la semaine dernière, déjà.
Ouais, c'est le genre de critiques qu'on peut faire au monde du catch quand on découvre ça de l'extérieur, de dire mais ils sont tous champions en fait, et puis bah là il a dit non, il y a un seul champion et c'est ça qui est fort. Il y a un truc qui m'a surpris par contre, c'est que Paul Heyman arrive sur l'ancienne musique de Roman Reigns, sur le turn, turn, et ça je me suis dit merde, ils ont pas déjà abandonné la super nouvelle musique. Bon, a priori non, c'est peut-être juste la musique d'entrée de Paul Heyman, c'est bizarre, mais j'ai trouvé le segment très bien, à ceci près que j'avoue, même si on va décrire le match qui a suivi et qui n'était pas si mal, quand je me suis dit, tiens, tout ça, ça finit sur un 3 contre 3 qui n'a pas grand intérêt. Bof. Mais j'ai trouvé l'ouverture assez forte en intensité, à la hauteur de, bah, voilà, de l'annonce principale qui était le retour du public. Donc ça, c'était cool.
Zygote ? Oui, un peu pareil que vous deux, dans le sens où c'est bien aussi de temps en temps de rappeler qui sont les champions du show bleu, parce que c'est pas forcément des... sont pas toujours des suiveurs aguerris qui regardent SmackDown. De temps en temps, celui qui tombe comme ça par hasard sur le programme, il se dit « Ah tiens, ok, c'est telle personne ». Puis ça donne un peu la perspective effectivement sur l'avenir du retour sur les routes avec le public. Et puis effectivement, c'est vrai qu'on n'entendait plus trop parler Heyman, mais Heyman dans son style très caractérisé, où c'était très efficace. Et la petite phrase, comme tu l'as annoncé, avant de nous donner la parole, qui était voilà, très 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 efficace.
Du coup, ça nous emmène sur un trios match. Bayley, Nia Jax, Shayna Baszler versus Bianca Belair, Natalia, Tamina. Elles vont avoir 10 minutes 20 pour l'opener in-ring de SmackDown, les filles. Donc, moi, j'ai pris ça un peu comme un tag team playa SmackDown-esque, finalement. On était limite pas loin du temps de Teddy Long en faisant un truc comme ça. Ça sortait d'une petite bagarre sur le segment, donc c'était plutôt pas mal. Match qui veut finalement être assez classique, parce que j'ai envie de dire qu'on est presque dans du classique maintenant, puisque c'était certainement le 656 entre ces filles, en particulier entre les quatre de la tag team division féminine. Donc tout va y passer à peu près. Bayley toujours dans une cheveux assez... Bayley, elle va perturber Natalia en remontant. Ça va permettre à Shayna Baszler d'appliquer son Kirikuda Clutch sur la Canadienne pour la faire abandonner. Victoire des Heels. Victoire de Shayna. Shayna, je crois que ça faisait un moment qu'elle n'avait pas fait abandonner quelqu'un comme ça. Vous me redirez si je me trompe ou pas. Pas mal pour les filles, pour un match d'entrée zigote.
Ouais, pas mal. Après, ça commence à être un peu long, l'histoire, avec Shayna Baszler, Nia Jax, Tamina. Ça fait plusieurs semaines qu'on se les coltine. Après, le match était plutôt correct. Effectivement. Oui, vas-y.
J'attends le split, moi, en fait.
Oui, t'es comme moi. Je crois qu'on est un peu tous les deux sur la même longueur d'onde. On aimerait que Shayna Baszler retrouve sa gloire d'NXT, où elle était destructrice, effectivement pas la meilleure au micro, mais qui en a imposé quand elle arrivait, puis qu'elle cassait des bras, c'est ce qui manque. Je trouve qu'il serait peut-être temps de la retrouver, comme elle était arrivée à l'époque dans le main roster, de retrouver cette gimmick, et pas plutôt le faire-valoir de Nia Jax, parce que c'est plus à quoi ça ressemble aujourd'hui.
C'est Raphaël, quand il est revenu, périple, parce que sa réputation le précède jusqu'au Machu Picchu, notre ami Raphaël. Il était revenu pour la review d'un Elimination Chamber où Shayna Baszler avait cassé la gueule à tout le monde, sans exception, pour gagner l'Elimination Chamber. Et à l'époque, on disait dans cette review, parce que comme on est en plein catch-up anniversary, j'ai fait beaucoup de travail d'archives ces derniers temps. Et voilà, Shayna Baszler et là, on la voit où on en est en mai 2021, mon bon Raphaël, hier, c'est plus tout à fait la même limonade.
C'est pas la même chose, effectivement, mais je sais pas, moi, contrairement à vous, si j'attends le split, parce que je trouve qu'elles se sont bien calées dans cette division tag team, après, peut-être depuis trop longtemps. C'est vrai que ça commence, elles ont peut-être un petit peu fait le tour de tout ça, mais, oui, il y aurait toujours une place face à Bianca Belair, par exemple, ou autre, mais pas dans l'immédiat, je pense, parce qu'il y a encore 2-3 histoires à régler d'un côté, de l'autre... à Raw, à SmackDown, avec les Charlotte, les Bayley, les Sasha Banks peut-être, mais moi j'ai trouvé le match plutôt sympa. Par contre, effectivement, comme vous l'avez dit et comme je l'ai dit au début, c'est juste que c'est typiquement le genre de truc où on mélange des feux en mettant les gentils avec les gentils, les méchants avec les méchants, et en fait, victoire des méchantes, c'est cool. Mais honnêtement, les gentils auraient gagné. Dans une semaine, il se passe la même chose et le programme ne change pas. Donc, c'est un petit match d'ouverture qui met en appétit. Mais je ne suis, suis pas mécontent de l'exécution, surtout de la victoire effectivement de Shayna Baszler. Je trouve ça pas mal que les championnes passées ne perdent pas de suite leur momentum et qu'on mette un peu les deux équipes, Natamina et Shayna Baszler, Nia Jax, encore à, on va dire, à niveau de force équivalent, quoi. Parce que là, s'il y a un rematch, tout est encore possible.
On peut noter que Tamina a quand même un momentum j'ai vu pas mal d'images assez émouvantes de quand elle est venue backstage après la victoire pour le titre. Et en ce moment, elle a bien tout le locker room derrière elle. Et c'était cool, et je suis totalement d'accord avec toi sur le principe que cette victoire des heels comme des faces, de toute façon, n'aurait eu aucun impact sur quoi que ce soit, et que quand on aura fini nous-mêmes la review, on aura déjà oublié qui a gagné ce match.
Voilà.
Voilà, c'est souvent comme ça que ça se passe. On retourne backstage, il y aura Kayla Bryson qui va nous faire des interviews, ça va être un petit peu au fur et à mesure, parce que ce soir, il y a un énorme main event qui est annoncé, c'est l'Intercontinental Championship avec Big E, Sami Zayn, Kevin Owens et le champion Apollo Crews. Big E, pour lui, c'est sa première opportunité pour récupérer son titre perdu à WrestleMania, hein, et ce soir il va affronter des chiens affamés Mais il dit qu'il va tout donner. Il va tout donner. On quitte Biggie. On arrive avec notre ami Aleister Black. Aleister Black is back. Et il est là pour le chapitre 4. C'est les règles du père, hein, c'est ça hein, les règles du père de notre ami Aleister Black qui sont gravées dans son corps avec douleur. Et cette douleur est nécessaire pour l'atteinte de son objectif. La douleur ne ment pas car elle est honnête et vraie. Où serions-nous sans la douleur, mes amis? Il révèle que le père était un être cruel et que les gens aiment vivre dans le déni et le péché, c'est bien vrai, on le sait, catch-up. Et qu'il est temps d'abattre le troupeau, comme on lui a appris. Un Aleister Black menaçant, un Aleister Black dangereux, j'espère, Raphaël.
Ouais, un Aleister Black de l'Inquisition, là, on est en pleine époque médiévale avec les croix du Christ. J'ai trouvé cet épisode-là vachement bien. Le premier m'avait beaucoup plu, quant à Aleister Black, et en plus, voilà, ça faisait un an qu'on l'avait pas vu, on était contents. Le deuxième, troisième, bon, ça ronronnait un peu plus. Là, j'ai trouvé que cette idée d'utiliser son corps qui est infiniment tatoué de partout avec des tatouages effrayants pour en raconter une histoire, pour nous faire croire que c'est quelque chose qui dure depuis sa plus tendre enfance, par exemple, ça sonne vachement mieux que, je trouve, quand Alexa Bliss veut nous faire croire qu'elle a une peluche qui s'appelle Lily depuis qu'elle a 6 ans. Parce que ça, on y croit pas trop. Mais là, j'ai trouvé que ça prenait tout son sens, qu'il était bon dans l'interprétation. Je sais pas si c'est le dernier qu'on verra de cette série de petites vignettes. Le design est toujours très beau, je trouve. Ils ont vraiment bien shadé. Enfin, franchement, on l'a pas vu pendant des mois, peut-être à cause de tensions. Il était parti piteusement à l'époque où il faisait des cosplays de Jean-Marie Le Pen là, avec l'œil crevé, attaquer Kevin Owens. Mais là, ça sent bon le momentum aussi, je trouve.
Parti un peu par la petite porte l'année dernière. Et là, les petites vidéos promotionnelles, la première est effectivement pareil, elle était vachement intéressante. Après, il y en a eu les deux, trois qui ont suivi, c'était un peu plus ennuyeux. Il y a une semaine où on ne l'a pas vu, mais de souvenir, c'était plus un problème de temps sur le show, c'est pour ça qu'il ne l'avait pas diffusé. Et celle du show d'aujourd'hui est plutôt. Était plutôt fort intéressante, et oui, il est menaçant, dominant, après, en espérant que ça ne soit pas encore une vidéo, et encore une vidéo, et encore une vidéo, et encore une vidéo.
Ah, l'avenir nous le dira. Moi, je suis enchanté de revoir le Hollandais de l'affiche, voilà, il en est à 4 vignettes, effectivement, je suis comme Zygote, je suis dans l'impatience de le voir entre les... je suis surtout curieux de voir sur quel genre de storyline il va être emmené et s'il va être dans la course de la ceinture intermédiaire, comment ça va se passer, quelle va être sa position, son positionnement dans la carte. Ça m'intéresse. Et puis, de toute façon, j'aime ce catcheur, donc j'attends que du bien de lui. Et je trouve plutôt pas mal. Je préfère, si vous voulez, les chapitres là, qu'on a le droit, là, les règles du père, dans ce mode-là, que ce qu'il faisait quand il était du temps où il faisait à la cave, où vraiment il était à la cave et puis il faisait un truc comme ça là. Je trouve que là c'est beaucoup plus travaillé, il y a beaucoup plus de prod pour nous mettre notre Aleister Black un peu en avant. Mon éternel regret du 2020. Voilà.
Du Money in the Bank, ouais.
Ouais, mon éternel. Pour moi, il aurait dû gagner ce soir-là. Mais bon, c'était une autre histoire, c'était du passé.
Ah, il est tombé du balcon. Écoute, ça arrive. Hein.
Eh oui, c'est comme ça. Allez, on retourne sur le ring avec le roi Corbin, King Corbin.
C'est lui qui l'a jeté du balcon, d'ailleurs.
Oui, d'ailleurs, c'était lui, oui, c'est vrai. Ah bah, tu vois, une très bonne transition, parce que c'est vrai que c'était lui, le salaud, qui avait jeté Aleister Black du balcon. Et on avait cru qu'il était décédé. Mais
ouais,
non.
D'ailleurs, c'est vrai que si on fait le résumé, en 2020, Rey Mysterio et Aleister Black, ils sont tombés d'un building et ils se sont fait crever un œil. Et bah, finalement, ça prouve qu'on peut s'en sortir bien hein, dans la vie, quand même.
Un monde merveilleux. Allez, King Corbin, il est sur le ring, il est énervé parce que Shinsuke Nakamura, la semaine dernière, il lui a mis la fève. Il considère que le japonais n'est pas du tout un roi, quoi. Il conduit pas des Ferrari, il porte pas des montres de luxe. Bref, il dit que ce soir, il va le punir et récupérer sa couronne. Là-dessus, on a une entrée de Shinsuke Nakamura 5 étoiles. On a un gratteux qui est là, un gratteux bodybuildé, s'il vous plaît, pas un gratteux petit gabarit, c'est pas Angus Young, le mec. Non. Le gars, en fait, est un bodybuilder qui vient du performance et qui fait partie de la ligue de développement et de la brande jaune et noire. Et en plus, le gamin s'est joué de la gratte et il va nous jouer tout le thème song de Shinsuke Nakamura, un peu en mode, moi j'avais, je crois que c'était WrestleMania ou à NXT aussi, peut-être pendant les deux d'ailleurs. Et là, on a eu une grosse entrée de Shinsuke Nakamura. C'était... On s'attend à un truc pas possible. On a droit à 5 minutes 20 de match. Et alors, qui va se terminer vraiment en mode weekly WWE, puisque notre ami King Corbin, il va être distrait par Rick Boogs, le guitariste qui s'est lancé dans un solo en reprenant son thème. Donc ça va, donc du coup, il va foirer son End of Days sur Shinsuke, qui va s'en délivrer et qui va enchaîner par un roller pour la victoire. Victoire de Shinsuke Nakamura. Zygott, tu aimes les guitaristes ?
J'aime les guitaristes. Le match, sans commentaire, c'était vraiment pour occuper le milieu de la carte. En revanche, toute la petite séquence avant l'intro, la guitare, toi, c'est plutôt cool. Après, c'est peut-être le moment de voir à l'avenir un petit battle de guitare en unplugged face à Elias avec, du coup, comment s'appelle-t-il ? Rick Boogs. Je ne sais plus exactement son nom.
Rick Boogs, c'est ça.
Il y a peut-être moyen de faire une histoire avec, à l'avenir, entre les deux, le guitare électrique contre la guitare sèche.
Ah ouais, Elias versus Boogs. Raphaël, hier, ça te dit ça comme rivalité ?
Je ne sais pas si cette rivalité me dit. Par contre, j'ai trouvé ça assez rigolo et assez inattendu. Et c'est vrai que bah, donc tu m'apprends quelque chose sur l'origine de ce garçon. Moi, je me suis dit, tiens, on dirait bien un catcheur de développement vu son style et tout ça. Mais il avait l'air...
Tu avais eu le pif déjà. Le pif, bah oui, puisque tu te dis, ah oui, c'est peut-être un mec
ouais,
de développement.
Ouais, je sentais un truc comme ça, mais j'étais pas sûr parce que je l'ai trouvé vachement à l'aise au micro. Hein, et pour un mec de développement ou autre, il a assuré grave, j'ai trouvé. Son entrée, sa musique, tout ça, ça matchait bien avec Nakamura, c'est cool. Le match assez classique, court, bon, on a dit l'un comme l'autre font pas des étincelles malheureusement à la WWE. Corbin, je trouve qu'il est à peu près à sa place légitime, hein, low card, mid card quand même. Après, je me suis dit, et si on avait une feud qui devenait un peu plus intense physiquement et que du coup, il y avait quelqu'un qui revenait, je sais pas, Adam Pearce ou autre, et qui disait, tiens, bah, pour régler ça, on a qu'à refaire un tournoi King of the Ring pour en avoir un nouveau. Et ça pourrait être peut-être l'occasion parce que je trouve que, je sais pas, Corbin, dans cette gimmick King Corbin, il est un peu installé, mais c'est pareil, c'est peut-être le tour de quelqu'un d'autre d'être devenir un petit King. Enfin, je trouve que le tournoi King of the Ring, à chaque fois, quand le mec gagne, il devient King. Voilà, on avait eu King Booker, King Wade Barrett et tout. Et bon, quand ça traîne en longueur, on dirait que les mecs sont un peu coincés. Là, se bagarrer pour savoir qui a la couronne, c'est pas ouf. Par contre, si ça pouvait donner un petit tournoi, tiens, pendant qu'on a encore 2 mois sans public, un truc qui nous met un petit peu en jambe à SmackDown, ça pourrait être rigolo.
Bah, tu m'as retiré les mots de la bouche, parce que j'allais dire que finalement, ouais, tout ça c'était de la mid-card, et que le seul truc, le point positif que je pouvais trouver là-dedans, c'était effectivement si ça nous augurait de relancer le King of the Ring. Alors comme la WWE a chamboulé tout son agenda, pourquoi pas un King of the Ring ? Alors moi, je suis partisan du King of the Ring qui se déroule dans les weekly et qui se finit en climax dans un pay-per-view avec la finale, voire les demi-finales et la finale. Comme toi, Raphaël, par contre, je n'adhère pas au truc de « et je te pique ma couronne, et je te reprends ma couronne, et je te repique ma couronne, et on rigole, et c'est sympa ». Moi, ça me va pas. Il faut autre chose. Il faut impliquer d'autres catcheurs, et voilà, c'est de la low mid-card. Il y a du monde dans le roster de... On enchaîne. On passe à Jimmy Uso qui rejoint Sonya Deville en backstage. Il demande un match avec son frère. Sonya Deville, elle paraît un peu surprise vu les tensions, quoi. Mais elle dit que voilà, Jimmy, il a confiance en son jumeau. Il veut un match contre les Street Profits. Ce soir, Sonya dit que pour un match pareil, bah, il faut d'abord en faire la promotion, comme catch-up sur Twitter et Instagram. Et on l'annonce pour la semaine prochaine. À ce moment-là, Roman Reigns fait son entrée avec Paul Heyman et Jey Uso. On nous voit une petite promo en coulisses de Kevin Owens qui nous dit qu'il va cogner très 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 fort Sami Zayn ce soir, qui ne se souviendra plus de rien et qui va enfoncer le sceptre d'Apollo Crews dans son culte. Il assure que ça sera lui le champion intercontinental ce soir. Pendant ce temps-là, Roman Reigns va nous expliquer qu'il est humble et qu'aujourd'hui il va laisser Paul Heyman parler à sa place. Là-dessus, Paul Heyman va repartir dans une promo où il va récapituler tous les accomplissements de la tête de la table depuis son retour de SummerSlam. Donc vous imaginez bien que ça a été un peu long. Chasser le Fiend. Tiens, le Fiend, on en a parlé il n'y a pas longtemps à Catch Up. Survivre à un handicap match contre Daniel Bryan et Edge. La voix de Jey Uso, l'humiliation de Kevin Owens. Bref, la totale. Reigns, il a battu en plus le lutteur le plus technique de la fédération, le Cesaro. Il demande au chef tribal s'il peut faire encore quelque chose pour lui. Reigns lui ordonne d'aller chercher Jimmy Uso, mais c'est Cesaro qui va débarquer. Le Suisse, il lui dit qu'il cherche Seth Rollins, ah bon ? Mais qu'il veut d'abord assurer un autre match de championnat à Hell in a Cell. Attention, on va parler booking Hell in a Cell. Roman Reigns se marre un peu, Seth Rollins arrive par derrière, et malgré l'intervention des officiels, Seth Rollins il arrive à coller deux curve stomps sur son ennemi du moment, et du coup, ça doit, c'est, bah, on est obligé... L'ambulance pour emmener le lutteur complètement KO. Sarah Schreiber, elle va demander l'acharnement de Rollins. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Il faut donner des explications. La France veut savoir. Et Rollins, il dit, je sais pas. Je suis comme possédé, je suis comme enragé. Il va croiser la civière de Cesaro. Il va hurler dessus qu'il l'a bien cherché, qu'il mérite tout ce qui lui est arrivé. Waouh. Alors, ça s'est envoyé dans tous les sens. Mon ami Zygote, Roman Reigns, les Uso, c'est Seth Rollins, Cesaro, ça s'envoie de partout dans le main event de SmackDown.
Ouais, il y en a partout. Comme d'habitude, le Reigns puant à souhait, en mode j'ai éclaté la tronche à tout le monde, il y a plus personne qui, enfin il y a toujours personne qui m'arrive à la cheville. L'intervention de Cesaro qui arrive pour dire oui, j'ai quelqu'un d'autre derrière, mais je vais m'occuper de toi après. Super un peu compliqué, même si c'est pour rappeler ce qui s'est passé à la fin du pay-per-view de WrestleMania Backlash. Je me pose des questions sur toute cette histoire, parce que, comme tu le dis, il y a beaucoup de monde autour de ça. Alors, que ce soit pour la ceinture ou autre, il y a des histoires de famille avec Reigns et Jimmy et Jey Uso. C'est Rollins qui revient pour se venger de Cesaro, qui lui dit que c'est de sa faute, qu'il est devenu comme ça ou autre. Pareil, ça fait beaucoup de feud entremêlés qui, moi, peut m'intéresser. Et est-ce que ça pourrait peut-être pas, parce que Hell in a Cell, c'est pas encore pour maintenant, il y a quand même encore quelques semaines avant le pay-per-view, est-ce que ça pourrait pas emmener peut-être sur une... où tout le monde se mélange pour une ceinture, une sorte de triple threat, fatal four way, avec un Jimmy ou un Jay, un Reigns, Cesaro, plus Rollins qui pourrait s'amener à la danse. Des Inocel à plus que deux, ça arrive rarement, et ça pourrait me botter si ça partait dans ce sens-là.
Raphaël, yes, c'est un soap opera, le mec.
Moi, je suis assez d'accord avec Zygote que c'est un peu étonnant tout ce bordel avec beaucoup de monde. Et honnêtement, autant j'adore la plupart des individus qui sont là, évidemment Cesaro, la classe, Roman Reigns, toujours dominant, extraordinaire, autant je trouve que l'exécution, là, comment c'est réalisé, ça me plaît pas trop. Et on parlait de Aleister Black qui était sorti par la petite porte l'année dernière. Et bien, Aleister Black, l'année dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez, Kevin Owens, il était en feud contre Seth Rollins, je crois, justement. Aleister Black, il le tirait un peu par derrière, en mode « Non, moi, je veux être encore en feud avec toi. » C'était un peu bizarre. Il y en avait un qui avait l'air de ne pas vouloir être dans la feud. Et là, c'est un peu l'impression que ça me donne, c'est-à-dire Cesaro, il arrive, c'est bien, il demande un rematch. Alors déjà, ça m'a un peu dérangé, il a dit « At Hell in a Cell », donc c'est-à-dire au pay-per-view. Et s'il demande un match au pay-per-view Hell in a Cell sans dire « Moi, je veux un match en cage contre toi », c'est un peu dommage. Et j'ai pas l'impression qu'on soit... Enfin, on va voir, je me trompe peut-être, mais qu'on parte vers un Hell in a Cell pour Cesaro et Roman Reigns. Ensuite, j'ai trouvé que l'arrivée de Rollins, elle a été mal faite. Je sais pas si vous avez remarqué, mais je sais pas, je crois qu'il a évité le caméraman en arrivant. Il s'est un peu chié l'effet de surprise, je trouve, en tapant Cesaro. Après, il y a eu, ça j'aime pas quand ça fait ça, il y a quand même célébration au milieu du ring de la Reigns Family, et puis dès que Rollins arrive, on voit plus personne dans le ring. Paul Heyman, ils ont tous disparu, Paul Heyman, Roman Reigns, tu sais pas, moi j'aurais bien aimé qu'on voit Roman Reigns regarder tout ça de haut, là, avec toute sa morgue, et ricaner, allez, regardez-les se battre dans la cour de récré. Non, ils disparaissent. Et après, moi, il y a un truc que j'aime pas trop à la WWE, c'est la civière, quoi, ça prend des plombes à chaque fois. J'accélère, je fais avance rapide. Alors, ce que j'ai bien aimé, c'est que Seth Rollins, ensuite, quand Cesaro passe en civière, il n'en rajoute pas une caisse en le renvoyant par terre et en le refaisant tomber comme ils font toujours. Il se contente de l'engueuler. Mais pour moi, là, ça devient un peu compliqué, cette histoire, comprendre. Et encore, je mets de côté l'histoire des jumeaux Uso parce que c'était pas trop le sujet là. Mais comprendre si on va avoir peut-être un troisième match entre Rollins et Cesaro alors qu'on en a déjà eu beaucoup. Alors ça pourrait se conclure par un Hell in a Cell match par exemple, mais du coup qu'est-ce qui fait Roman Reigns au prochain pay-per-view? Ou alors est-ce qu'on fout ça effectivement comme Dizigoth dans un triple threat pour la ceinture, mais Rollins il a l'air d'en avoir rien à carrer de la ceinture. Donc c'est des gars qui sont très bons, mais je suis pas convaincu, enfin moi j'ai pas trop aimé ce segment au final. Puis Cesaro, le coup du bras dans le foulard, finalement quand il se fait taper par Rollins on voit bien qu'il a rien du tout au bras. J'ai trouvé qu'il y avait plein de mini botch qui m'ont pas trop plu.
D'accord, ok. Bah écoute, moi
je suis peut-être sévère.
Ah, t'es peut-être sévère. Oh non, bah non, c'est ton ressenti. Après tout, c'est comme ça que t'as anticipé cette affaire. Moi aussi, je considère qu'il y a de l'embouteillage, quoi. Il y a du monde.
Voilà, c'est ça.
Il y a du monde grave. Là, c'est un petit peu. J'aurais envie de me dire que ça oriente sur un Seth Rollins, Roman Reigns à SummerSlam, sur un booking d'un peu moyen terme. Cesaro de plus en plus, j'ai peur de la feud de transition définitive et qu'il ne gagnera peut-être jamais le titre parce qu'il pourra jamais le prendre à Roman Reigns. Donc on verra ce qui va se passer d'ici le mois de juillet. Mais voilà, après le truc en lui-même, tout ce que ça annonce finalement, c'est le retour des Uso en tag team, puisque on saura juste après que les Street Profits sont chauds pour la semaine prochaine les affronter. Il y aura un autre match affronté. Tiens, Tamina et Natalia vont défendre face à Nia Jax et Shayna Baszler. Rendez-vous la semaine prochaine.
Allez,
mes amis de la triple frite de ketchup, voilà arrivé. Main event. Ce main event, c'est quelque chose. C'est l'Intercontinental Championship. Apollo Crews, accompagné du commandant Aziz, affronte Big E, Kevin Owens et Sami Zayn. Alors là, que dire? Un match de 21 minutes 50, alors ça, SmackDown, c'est quand même quelque chose d'assez rare. Je crois que j'ai envie de reconnaître que depuis le début de l'année 2021, c'est quand même qu'ils ont présenté parfois des gros, gros main events. Et finalement, celui-là n'aura pas échappé à la règle. Un match énorme. C'était un Fatal 4-Way, simple. Et les mecs se sont envoyés dans tous les sens. Kevin Owens et Sami Zayn, d'abord, ça va être vraiment la guerre entre eux deux. Fait ce qu'il a promis, hein. Il va tabasser sévèrement notre ami Sami, quoi. À force, de toute façon, ils vont être out. Big E va mettre un peu hors d'état de nuire le commandant Aziz. Et il va rentrer pour s'occuper d'Apollo Crews. Mais les lumières vont s'éteindre. Alors tout ça, après, de l'action non-stop. Si vous connaissez bien ces quatre catcheurs, vous connaissez relativement bien leur moveset. Ils ont envoyé, il y a une triple German suplex d'Apollo Crews, phénoménal sur Big E. Vraiment, c'était un match où, techniquement, ils se sont envoyés quelques moments, d'ailleurs, assez fois où j'ai été un peu inquiet. Il y a un moment où Kevin Owens coince Sami Zayn dans le turnbuckle et il se lâche à coups de poing comme ils font tous les deux. Là, ils ont la tape l'un après. Et Kevin Owens prend le dessus et Sami Zayn tape la tête contre l'un des deux coussins du turnbuckle. Et Kevin Owens, dans son élan, il retape. Et là, on se dit, là, il a tout. Et vraiment, les mecs se sont envoyés, mais ça, c'était. C'était superbe. Je spoil déjà d'entrée mon avis. Mais il va se passer un fait notable, plus que notable, fondamental, puisque les lumières vont s'éteindre et quand elles vont se rallumer, la rampe est couverte d'un épais brouillard d'où va sortir Aleister Black. Big E, qui est gêné par Apollo Crews, qui lui tient la jambe, se prend un black mass des familles pleine face, sale couche à terre. Apollo Crews n'a plus qu'à faire le tomber pour conserver son titre intercontinental. Victoire d'Apollo Crews sous les yeux d'Aleister Black qui clôture le show avec un grand sourire sardonique sur le visage. Eh bien écoutez les gars, on a évoqué longuement le Aleister Black tout à l'heure. Il est finalement là, ça y est, il est entre les cordes, il est shape. Raphaël Hier, Ça t'a plu, ça ?
Ça m'a beaucoup plu, il est beau comme un démon antique, effectivement, et j'ai trouvé ça vachement bien fait. C'est pas très original, dans le fond, hein, une sorte de... Bah, on a l'Undertaker qui fait ça, le film dont on a parlé, mais là, c'était différent, il y avait zéro musique, et vraiment, les lumières se sont éteintes d'une manière... Bah, ça faisait pas comme le film, de là où ça fait vraiment le tiou, ça fait vraiment hyper scénarisé. Là, j'ai même eu un quart de seconde où je me suis dit, tiens, il y a... Depuis le temps qu'on est sur le Thunderdome, il y a une merde, il y a une couille dans le pâté, comme on dit, il y a un souci avec la technique. Et puis après, les lumières se sont pas tant éteintes, elles se sont allumées. Enfin, il y a eu un espèce d'éclat blanc qui était assez éblouissant. Voilà, une sorte de, on dirait un archange un petit peu, Aleister Black. J'ai trouvé ça vachement bien. J'ai bien aimé le match. Peut-être pas autant, a priori, que toi. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'opposition assez classique de 1 contre 1 et des mecs qui ont un petit peu roupillé, notamment Biggie par moment. Mais on avait 4 mecs talentueux sur le ring. Kevin Owens, qui est à mes yeux largement au-dessus de tout le monde. C'est presque. J'ai presque été triste pour lui, en fait, de me dire oh, bah, il est dans ce match et puis il va faire des belles perfs. Et puis bah, pour le moment, Kevin Owens, bah, c'est juste ça. Il est dans un petit creux de la vague. Mais bon, après, je me suis rappelé qu'il a eu un énorme mois de décembre-janvier là, avec des matchs fantastiques contre Roman Reigns. Donc ça va. Et je suis curieux, cet Aleister Black, j'ai l'impression qu'il va prendre peut-être une. Une merde, comment on appelle ça, une personnalité, une gimmick un peu façon Imperium, dans le côté on s'occupe un peu des rigolos, des clowns, on va détruire un peu ce qui enfin c'est ce que j'ai pensé quand il s'est attaqué à Biggie par rapport à ce qu'il avait dit dans sa vignette. C'est le côté un peu correcteur des torts. Je me suis dit tiens, il va s'attaquer au Power of Positivity. D'ailleurs, on l'a pas redétaillé. Mais j'ai trouvé que la promo de Biggie avec Kayla Braxton était excellente, comme il sait en faire parfois, la totalement survoltée, survitaminée. Donc c'est une bonne feud qui peut s'annoncer là pour Biggie et Aleister Black. Et drôle de lapsus parce qu'il n'est pas très rigolo le garçon. Par contre, Aleister Black, à mon avis, il arrive en super shape, il a besoin de gagner une feud. Et si c'est contre Biggie qui est lui-même le pauvre... On s'attendait à un gros push, il a perdu son titre contre Apollo Crews. S'il resserre d'escabeau à Aleister, c'est un petit peu étonnant. Mais moi, je pense qu'il y a toutes les raisons d'être optimiste pour les prochains mois d'Aleister Black. Et puis, je trouve, je l'ai déjà dit, mais je le redis, le Black Mass, c'est un finisher qui marche d'enfer, quoi. C'est simple comme tout, mais là, le Trouble in Paradise de Kofi Kingston, il peut refaire un tour. Hein.
Nigot.
Ah bah le Black Mass, ça déboîte les mâchoires plus que le Trouble in Paradise. Pour revenir sur le main event, bah je suis comme tonton. Moi, je suis vachement preneur de ce genre de combat. C'est plus qu'assez rythmé. Ils desservent la marchandise. Et tu vois vraiment pas le temps passer. Parce que pour le coup, tonton t'a dit quoi, 21 minutes et des brouettes, c'est ça ?
1 minute 50, ouais.
Ouais, franchement, je n'ai pas vu le temps passer. C'est ce qu'on attend d'un main event de show hebdo, voire ça peut mériter sa place dans un pay-per-view, hein, ce genre de combat. Le match efficace de bout en bout. J'ai vraiment cru à un moment donné que Sami Zayn allait gagner. Mais non, fausse joie, parce qu'il n'aurait pas démérité non plus. Enfin, de toute façon, tous les 4 catcheurs autour du ring n'auraient pas démérité... Que ce soit Apollo de conserver ou aux 3 autres de gagner. L'arrivée de Aleister Black, du coup, je ne l'ai pas forcément vu venir, puisque au vu du début du show, quand on voit la vidéo, bon, c'était sûrement juste une vidéo promotionnelle et je ne m'attendais pas forcément à le voir en fin de show. Il arrive en plein main event, du coup, c'est plutôt, pour exposition, c'est plutôt pas mal. Il s'attaque à Biggie, donc quand même un gros poisson au niveau catchesquement parlant. Est-ce qu'il va s'intégrer au titre intercontinental ou pas, ça me paraît un peu compliqué sachant qu'Apollo est heel et qu'Aleister Black vu ce qu'il a fait est heel aussi. Je vois pas forcément de confrontation, ou comme disait tout à l'heure Raph, est-ce que c'est pas Biggie qui va servir de marchepied pour mettre en avant Aleister Black, qui moi ne me dérangerait pas parce que je ne suis pas forcément un grand fan de Biggie malgré toutes ses qualités, mais ça peut annoncer, présager de très bonnes choses pour l'avenir, et c'est un grand plaisir de le revoir enfin.
Moi je pense qu'on va peut-être avoir un glissement de feu et Kevin Owens va peut-être devenir le rival principal de Apollo Crews, Parce qu'il faudra bien un rival face. Alors, je sais pas ce que deviendrait Sami Zayn dans l'histoire, et qu'on aurait Biggie, Aleister Black en rivalité. Je pense que ce Fatal 4-Way est peut-être l'occasion de. Et même sûrement l'occasion de quizzer la rivalité Biggie-Apollo Crews et de passer à autre chose. Par contre, mine de rien, Apollo, là, il gagne, on va dire, comme un heel, quoi. Il gagne petitement, mais il fait un bon règne, hein. Il commence à avoir un personnage bien installé. C'est une des grosses bonnes surprises de 2021, je trouve.
D'accord.
Et c'est un des meilleurs règnes, peut-être intercontinentaux, de ces dernières années. Alors, il est court, mais c'est vrai que par rapport au règne qu'a eu Biggie, par exemple, dont j'ai pas beaucoup de souvenirs au final, il a été assez court ce règne. Il a pris le titre à Sami Zayn et il est assez vite perdu. Donc, ouais, c'est bien Biggie. Hein. C'est bien Apollo Crews, pardon. Pouf, il y a trop de monde là dans cette histoire.
La fin justifie les moyens pour Apollo.
Voilà, il était content, hein, d'avoir gagné.
Ouais, mais c'est clair, c'est clair. Oh, c'était très bien, j'étais très content. Bah, écoutez, moi, ce main event de SmackDown,
T'es ravi.
voilà le genre de match pour lequel je regarde des weekly de la WWE et que je les regarde toutes les semaines depuis tant d'années. C'est ça que j'attends. Voilà, c'est exactement ça. Alors, le titre intercontinental est la ceinture la plus chère à mon cœur. Et donc, quand elle est défendue fièrement, comme elle est défendue ce match de 21 minutes 50, en mode spot fest, mais moi je m'en fous, ça me dérange pas, moi, un mode spot fest sur des combats pareils. Zygote, tu l'as dit, voilà, c'est un match pour moi digne de pay-per-view. Manquait une petite stipulation, peut-être un petit truc à grignoter supplémentaire dans le match, mais déjà en mode fatal, c'est un match auquel j'aurais mis 4 étoiles et demie. Blind, c'était du top. Et puis l'arrivée de Aleister Black, plus vers dans climax de ce match, on a l'arrivée. J'aime beaucoup aussi. Donc Tommy Yen que j'ai vu en 2013. Mais faut pas que j'en parle trop parce que j'en parle dans un prochain You Talk Too Much. Mais on parle trop. Voilà, c'est comme ça. Je parle trop. Et du coup, non, bah ouais, voilà. Sur ce main event, c'était une tuerie, une boucherie. C'était que du bonheur. C'était que du kiff. Donnez-moi tous les vendredis soirs et je vais continuer à reviewer jusqu'au bout de la nuit.
C'est bien, tu es en meilleure forme que tu l'as été en début de semaine dernière, tonton, grâce à des main events comme ça. Tu vois, il fallait attendre SmackDown, il faut toujours attendre le vendredi soir.
Le show rouge souffre de la comparaison avec le show bleu, hein. Il n'y a pas photo. On pourra en parler peut-être un petit peu
Cette semaine, ouais.
après le top flop note. Si on a de l'actualité, on a plein de trucs. C'est un truc qu'on n'arrête jamais. Allez, les amis, c'est l'heure de la tradition. D'accord? Ok, donc levez-vous, hein, et poussez un petit peu vos pantalons. Ok, resserrez la ceinture, serrez les bretelles. Mon ami Zigote, tu vas nous donner ton top, ton flop et ta note.
Alors, j'ai pas pris de notes, je suis pris un peu de court. Mon flop, je vais le donner à ce qu'il s'est passé avant le match féminin au bout du compte. Shayna Baszler et Nia Jax attaquent Bianca Belair, on va dire sans raison, mais c'est juste pour amener un 3 contre 3 entre les 3 face et les 3 heel. Bon, j'ai trouvé ça pas terrible, mais c'était juste histoire de les caler et puis qu'il est temps que Shayna Baszler vole de ses propres ailes. Et je pense que je vais piquer le top de l'un d'entre vous deux. Bah, ça sera tout le main event, ce qui s'est passé, le combat, l'arrivée d'Aleister Black qui est là pour casser des mâchoires. Hein. Et ma note, je vais donner un 3 sur 5. Ouais, j'arrive
Raphaël.
dessus, 3 sur 5.
Eh ben écoute, moi je vais donner mon flop, c'est peut-être un peu dur parce que c'est des gens que j'aime bien, mais je vais donner mon flop à ce segment de tabassage de Cesaro par Rollins et avec la famille Samoan qui disparaît comme un vulgaire Abra qui fait attaque téléport dans Pokémon pour les initiés. Là, t'es mal fait parce que ça faisait très faux, quoi, les mecs qui disparaissent comme ça. Et puis c'était un peu le même tabassage que le main event de Backlash, ça n'a pas apporté grand-chose, donc je suis un peu déçu qu'on continue de. Là, je trouve qu'on est dans une petite boucle temporelle qui commence à être chiante. Il faut qu'on nous boucle des choses, d'ailleurs, de manière générale, il faut qu'on peut-être commence à booker des choses pour Hell in a Cell, même si le pay-per-view est loin, parce que là, on continue de se tabasser. Et puis, même le fait que Roman Reigns continue de dire, ah, il est où Jimmy qu'est-ce qu'il faut? Cherche-moi mon cousin. C'est un peu répétitif, je trouve, cette histoire. Donc ça reste intéressant parce que Roman Reigns, c'est un charisme incroyable et que Seth Rollins est plutôt bon quand il pète les plombs. Mais voilà, je mets mon petit flop qui est plutôt un panneau à point d'exclamation. Attention. Et moi, j'ai donné le top à Aleister Black, tout court, parce que j'ai trouvé que je suis très content de son retour. J'ai trouvé que le retour a été bien amené. Les vignettes, c'est pas toujours réussi à la WWE pour faire vendre un personnage, mais là, c'était bien. Et par contre, moi, je pense que quand ce gars-là va retrouver du public, il y aura peut-être un peu à la façon de Randy Orton, il y aura toujours une partie du public avec lui, je pense. Il aura du mal à être un heel total s'il est comme ça aussi classe, ténébreux et taiseux. Donc peut-être qu'il va face turner assez vite. Et moi, je vais mettre un 3,5 parce que j'ai trouvé que globalement, quand même, SmackDown reste très solide et de très bonne qualité, dont le main event. Je suis bien d'accord avec toi, tonton.
Les gars, j'ai pas botché, j'ai pas oublié un segment.
Et tu as oublié, j'allais en parler, mais en plus, ça craint que tu oublies ce genre de segment avec tes catcheurs, un de tes catcheurs
Segment
favoris.
quand même avec mon catcheur de mon top 3 à moi que j'ai, quoi. Mondial ever. J'ai oublié tout simplement le tag team de SmackDown. Je suis désolé, peuple de catch-up. Heureusement, je m'en souviens avant de donner mon top flop note.
Ah
Mais
bah
on
oui,
rentre.
quel botch, c'est vrai, j'avais oublié ce match-là, il me semblait qu'on était...
Botch à catch-up, voilà, c'est comme ça, botch à tonton. Et on va parler du coup de la tag team quand même. Dominic Mysterio et Rey Mysterio, ils sont sur le ring de Backlash et on est bien content. Ils vont être interrompus par les Dirty Dogs. Robert Roode, il dit que Dominic, il mérite pas son titre parce qu'il est là que grâce au piston de papa. La cooptation, c'est pas beau. Dolph Ziggler, évidemment, approuve. Le Canadien, il va lui dire que ce soir, il va lui montrer qu'il mérite pas. Et du coup, on a une bagarre entre Dominic Mysterio et Robert Roode, mais une bagarre qui va être expéditive. C'est peut-être pour ça que ça m'est passé devant les yeux quand j'ai réalisé le timing du match, puisque ça a duré 2 minutes 45. Robert Roode, il va profiter, enfin, il ne va pas profiter d'une distraction qui est tentée par Dolph Ziggler sur Rey Mysterio, et il va laisser Dominic Mysterio remporter le match grâce à un 619 et un Frog Splash des familles. Alors, Raphaël Yeh, on revient. Vite fait sur la tag team. Dominique et Rere confirment les champions. Campeones.
Eh ben écoute, je sais pas si ça va te décevoir, mais le fait qu'on reparle de ce segment, j'ai presque envie de changer de flop. moi j'ai pas trouvé ça bien. Autant Dominique l'an dernier là, quand il était contre Seth Rollins, il avait fait un match hardcore à SummerSlam où il nous avait impressionné, il avait tenu 20 minutes, c'était cool. Autant là, en un contre un clean, qu'il arrive à complètement surclasser Robert Roode. J'ai trouvé ça mal fait. J'ai trouvé que Robert Roode donnait l'impression de catcher comme un manche. À un moment, il court contre Dominic Mysterio. Oh là là, Dominic l'évite. 10 secondes avant, il se prend le poteau. Voilà. Et puis bon, en gros, c'est l'enchaînement 619 Frog Splash. C'est fatal absolument. Mais j'ai un peu de mal. Moi, j'aime bien l'idée de se dire qu'il est champion tag team quand même. Parce que c'est vrai qu'il a une bonne alchimie avec son papa. Mais en solo. En solo, j'ai du mal à croire que Dominique soit au niveau de tous ces mecs-là, quoi. Et si Backlund, des Dolph Ziggler ou des Robert Roode, alors des fois il arrive à gagner parce qu'il coince des roll-ups un petit peu tordus, un petit peu vicelards à la limite. Mais là, moi ça m'a un peu gêné quand même. Je sais pas ce qu'en pense Zygote.
Je pense pareil que toi, dans le sens où ça m'a gêné quand on revoit le match en pay-per-view de WrestleMania Backlash, où au bout du compte, il arrive, il revient dans le combat blessé, parce qu'il s'est fait tabasser un peu en amont du show, et où il tient la grappe. Au bout du compte, il avait l'air, les deux arrivent à tenir la cadence, avec Rey Mysterio qui se fait tabasser tout du long. Le fiston qui arrive, il tient la cadence, et là, le lendemain, il tient la cadence contre deux autres catcheurs, mais j'avoue, là, c'est un match, ouais, ça montre rien, ça ne valorise pas Robert Roode, ça ne valorise pas non plus, je trouve, Dominique, malheureusement, et il serait peut-être temps de, en équipe, ils sont très efficaces, mais ce serait bien aussi que Dominique, tout seul, montre aussi qu'il est capable de tenir lui-même l'équipe plutôt que de gagner par une intervention du père, enfin qui perturbe un peu aux alentours du ring. Mais c'était vraiment pas terrible. Et du coup, je change mon flop, je donnerai mon flop à Tonton qui a oublié
Tout à
son
fait,
un de ses
et
catcheurs
tonton, je
favoris.
vais m'infliger la même sanction. Je vais m'auto-flopper. Voilà, je vais m'auto-botcher. Je me suis auto-botché. Je vais donc
Ouh,
m'auto.
ça c'est une première dans l'histoire de catch-up quand même.
Ah ouais, tu crois que c'est une première? Jamais
Je
personne s'était.
pense. Ah bah ouais.
Ah bah écoute, bah là je le fais quand même, là, parce que là, quand même, se
Oui.
rendre compte au moment de la tradition du top flop note que j'ai oublié un segment et carrément un match. Alors effectivement, vous avez tout résumé. Un match de 2 minutes 40 qui n'avait aucun intérêt. Je suis d'accord avec toi, Raphaël. Non, j'ai pas envie de les voir dans un truc comme ça, quoi. Elle est belle, la tag team, dans le show bleu. Et des chouettes storylines. J'aimerais qu'ils gardent le titre. J'avais même dit, hein, je crois, dans mon avis, je sais, mais j'avais dit dans mon avis de la semaine dernière de SmackDown que moi, j'étais presque partisan pour être patient et qu'ils aient pas le titre tout de suite et qu'ils aient le titre en apothéose devant du public. Mais j'étais prêt à être patient. Donc, maintenant qu'ils sont champions, j'attends quand même qu'on ait de la belle compète. Donc, je me floppe pour tout ça, pour toutes ces raisons-là. Je suis indigne, je vous le dis. Et mon top, sans aucune surprise, ce sera le main event, 4 étoiles et demie. Allez voir ce truc-là. S'il y a un match à voir dans ce SmackDown, s'il y a un truc à voir dans ce SmackDown, c'est ce main event. Big E versus Kevin versus Sami versus Apollo. Ba-ba-bam, badaboum. Ainsi s'achève.
Et ta note?
Ah, et ma note. Ah, bah, ma note, Ah ouais, non, mais c'est devenu un running gag. Eh ben écoutez, j'ai tellement aimé le main event que j'ai une bonne note. Donc je vais lui mettre un 3,5. Puis ça sera pour me faire pardonner à SmackDown d'avoir autant botché ce soir. Bah voilà, les amis, ainsi s'achève ce SmackDown. J'ai envie de terminer sur une petite question. Si vous avez encore un petit peu de temps à consacrer au studio, comme vous suivez de toute façon les weekly assidûment, que vous les reviewez ou pas, qu'est-ce que vous pensez en ce moment de la bataille pour vous, où en est Raw à l'heure actuelle SmackDown? Auquel, je le rappelle, peuple de catch-up, là en ce moment, tous les vendredis, c'est de la grosse note qui tombe quand même pour le show bleu. Hein.
On a quand même, je trouve, une sortie du tunnel à Monday Night Raw depuis 2-3 semaines. Si on dit le long terme, ces derniers mois, il n'y a pas photo. Mais moi, je crois que c'est les deux derniers Raw de mémoire. C'est très récent, hein, mais il y a une vraie embellie, je trouve. Depuis qu'il y a le. Ça n'a rien à voir, tonton, hein, calme-toi ce que je veux dire, mais depuis qu'il y a les vignettes d'Eva Marie et le retour de Jinder Mahal, je ne sais pas quel est le lien. Peut-être qu'Eva Marie, elle est devenue bookeuse en chef et elle a plein de bonnes idées, mais non, ça fait 2-3 rows où on est vachement, vachement au bon niveau. De toute façon, c'est la comparaison avec SmackDown. Tape forcément à un moment donné à sa limite puisqu'il y a une heure en moins et que c'est pas le même rythme, mais les Raw sont beaucoup plus regardables maintenant qu'il y a quelques semaines ou quelques mois, donc ça s'équilibre, ça fait globalement une bonne semaine de catch à la WWE, je trouve.
Je vais plutôt rejoindre l'avis de Raph. En général, c'est vrai que j'ai toujours été un petit peu plus sévère avec Raw. J'ai toujours été quand même plutôt très généreux, où j'ai toujours donné des bonnes notes à SmackDown depuis plusieurs semaines. Mais ouais, comme Raph a dit, là, ça fait une ou deux, trois semaines, ouais, carrément, où au bout du compte, Raw commence à ressortir la tête de l'eau. J'ai toujours une petite préférence pour SmackDown, mais comme d'habitude, comme on le dit, le format aide et oblige aussi. Une heure et demie est toujours un peu plus digeste à regarder que 2h20-30 de show. Mais il y a des beaux champions d'un côté ou de l'autre, et ça mérite de continuer, de ne pas lâcher le coup. Et puis l'arrivée du public, ça va peut-être les... L'arrivée du public proche, ça va peut-être les motiver à relancer de très 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 belles histoires ou de longues feuds qui sont en suspens ou qui vont continuer. Et on va voir ce qu'est capable de nous sortir la WWE pour les semaines à venir.
Oui, le show rouge va mieux depuis 3 semaines déjà, là, depuis 3 épisodes. Et la tendance de toute façon, je pense en particulier au Go Home Show de WrestleMania, le Bunny Be Bad, avait été déjà un Raw qui me laissait à penser que ça allait mieux. Et je considère que là, depuis 3 semaines, ça va carrément mieux. Vous allez écouter nos notes, peuple catch-up, ça remonte dans le show. Donc, je rejoins votre... Pour moi, SmackDown reste le A-show à l'heure actuelle. mais ça me paraît assez évident. Alors les gars, lors du comptoir du catch, là j'ai des breaking news lors de la review. On va parler de John Cena juste un petit instant. John Cena a teasé un retour. Très très fort, très très fort. He really, really, really wants to go back in WWE. John Cena, Zygott. John Cena, le logo de Catch-Up, l'homme logo de Catch-Up, pourrait être de retour. Et tiens, comme par hasard, si c'était au 16 juillet.
Ça pourrait être. ça pourrait être carrément un gros coup commercial pour WWE et puis même pourtant.
À Raw ou à SmackDown?
Bonne question. Ah, bonne question. Peut-être du côté de SmackDown, parce que pour le coup, je ne vois pas qui pourrait en ce moment détrôner Reigns. Autant Bobby Lashley, à Raw, il a plus de concurrents potentiels pour l'étrôner, je pense. À moins que d'ici là, il y ait un shake-up entre-temps, mais je pense pas que ce soit encore la période. Mais un petit Cena contre Reigns Hill pourrait être fort, fort, fort sympathique. Si tant est que Cena participe au Money in the Bank et qu'il gagne. D'ailleurs, si Cena participe à Money in the Bank, a-t-il déjà participé à Money in the Bank?
Ah mais il en a gagné un, Zygote.
Oui, qu'il a perdu, qu'il n'a pas réussi à cacher. C'est ça,
Raphaël,
je suis comme papy, trou de mémoire.
Bah, tout dépend ce que ça veut dire. Il a très très envie de revenir. Est-ce qu'il a très envie de revenir pour catcher pendant un an ou est-ce qu'il a très envie de revenir? Et puis en fait, comme Edge, on le revoit plus depuis. D'ailleurs, petit clin d'œil, l'a dit Roman Reigns, c'est quand même fou. On est un mois à peine après le main event de WrestleMania, le main event Triple Threat, et sur les trois, il y en a deux qui sont pas là. Daniel Bryan, viré, kayfabe ou pas, on ne sait pas trop. Et Edge, on ne sait pas, il veut visiblement pas venir. Moi, je verrais bien Roman Reigns contre John Cena à SummerSlam, un peu en apothéose, la cadeau de l'été. Par contre, John Cena, si j'ai bien suivi son tweet, il a dit vivement le retour de la foule et vivement que je revienne. Donc effectivement, je serais assez partant comme Zygote et comme toi tu l'as pronostiqué, tonton. Même si c'est le Go Home Show de Money in the Bank et même si Cena ne vient pas à Money in the Bank, ça serait super chouette qu'il soit là au premier SmackDown. Après, John Cena, c'est John Cena, il peut être à SmackDown, il peut être à Raw, on n'en a rien à foutre, il faut qu'il soit aux deux. Mais ça serait super sympa qu'il ouvre, il pourrait même ouvrir ouais, le premier show avec public, ça serait vachement bien. Plutôt façon guest host, comme peut le faire des fois Steve Austin ou autre, mais ça serait une très bonne idée, je trouve. Et puis, ça nous permettrait de faire revenir Giscal, ce qui est pas rien.
Mais oui, voilà, Giscard is back, Cena is back. Mais oui, comme tu dis, dans les deux shows, allez hop, oh, et SmackDown, il est free agent de toute façon. Ça sera un part-timer. Et s'il vient nous faire quelques bien claqués, et aussi vient nous faire livrer quelques petits matchs, là, mettre over des jeunes, et ben ça sera parfait. Moi, je suis sûr qu'il est corporate, ce garçon. Donc, je suis pas inquiet. Je pense que vraiment, John Cena, c'est. Ça serait énorme, ça serait énormissime. Là, franchement, s'il revient cet été, là, avec la foule et tout, pour un programme pour SummerSlam, déjà, allez, qu'il fasse juste du part-time pour SummerSlam, peut-être après qu'il se prenne un petit automne sympatoche, un petit hiver pareil, et puis qu'il revienne au Rumble 2022. Allez, ainsi s'achève cette édition de SmackDown. Alors, vous pouvez nous trouver, nous rejoindre sur la communauté Catch-Up de Discord. Vous abonner à toutes les bonnes plateformes de podcast, Apple Podcast, PodCloud, Spotify, Deezer, Google Podcast. Sur YouTube, actionnez la cloche, laissez des commentaires, mettez des likes. Les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, le site officiel catchup.lepodcast.fr. De l'actualité, mon bon Zigote et mon bon Raphaël, on en a à gogo, à Catch Up en ce moment. Vous avez déjà en ligne le weekly de Monday Night Raw. Vous avez toujours le You Talk Too Much hashtag 10 avec Jean Brassard et Ringside. Vous avez également depuis hier ou depuis ce matin, je ne sais plus, non, depuis ce matin, au petit-déj, c'était ce matin. Ce matin est tombé comptoir du catch, hashtag première édition, hashtag one, sur un débat enflammé dans un Fatal Four chronique consacré à l'avatar de Bray Wyatt. The Fiend, sur une idée originale de Raphaël hier.
C'est moi.
Donc tout ça, c'est en ligne. Là, vous écoutez la review de SmackDown. Le prochain épisode qui sortira sera vraisemblablement un petit catch-up anniversary dont on parle à peine depuis quelques semaines. Ainsi s'achève tout ça, toute cette belle promo. Je n'ai plus qu'à remercier ma triple frite du jour. Mon ami, mon Magic Zigot, des bisous.
Des bisous à vous, merci Raph, merci Tonton, et à très bientôt pour le 5 ans de catch-up.
Mon Raphaël, pareil,
Ouais.
des bisous.
Mais ouais, la prochaine fois qu'on se voit, c'est autour des gâteaux et des bougies. Donc,
Ah,
je vais me préparer, je vais me faire
chauffage.
Je vais me faire tout beau, j'espère que vous serez nombreux à nous écouter, peuple de ketchup.
Champagne, eh oui, stay tuned, peuple de ketchup, ça arrive, c'est pour bientôt. Enregistrement lundi, ça a été annoncé déjà sur tous les bons réseaux sociaux qu'on vous a dit au préalable. Ainsi s'achève cette review de la team ketchup, le monde merveilleux du show bleu. On vous souhaite une bonne semaine pleine de catch. On vous fait des bisous. On vous fait les cordes à linge plein la face. Salut Zigote.
Salut
tonton.
Salut Raph.
Salut peuple de catcheur. C'était la fête du slip, c'était la fête du botch à tonton.
Pauvre et Mysterio.
De toute façon, tonton, il aime pas SmackDown, il aime bien botcher les SmackDowns.